pas aller aussi loin que j'étais allé là.
Les algues vertes, là, tu sais, de la pollution, on pourrait, enfin, on peut en faire quelque chose ou c'est vraiment genre de la pure pollution dont on peut rien faire ?
Et non, c'est les algues vertes sont le symptôme évidemment
de notre pollution humaine,
de tout ce qu'on rejette, et notamment des problématiques liées à l'industrie porcine et à l'agriculture conventionnelle bretonne.
À cause des nitrates.
À cause de l'afflux en grande partie de nitrates, ouais. Dont les algues vertes se nourrissent quelque part. Mais les algues vertes, bien situées, au large, bien accrochées à leurs rochers, pas de problème, bien au contraire. Elles sont délicieuses, elles nous apportent plein de bienfaits. Elles sont tout à fait comestibles et très bonnes.
Et ça, du coup, toi, pour toi, ça s'est accroché ou c'est pas accroché ?
C'est pas accroché. Tu vois, tout est dérivant, là. Là, c'est une algue qui est accrochée sur une algue qui, elle-même, est complètement décrochée. Je veux dire, il n'y a pas de substrat autour. Là, c'est pareil, tu vois. On ne peut pas dire que ça soit accroché. Le caillou, il est lui-même complètement décroché. Autant, elle va être encore comestible parce qu'elle sera décrochée depuis 2 minutes et on ne l'aura pas vue. Autant, elle sera décrochée depuis 3 semaines, 1 mois. Et là, dans ce cas, elle sera plus décrochée. On arrive quasiment à l'étage le plus bas possible, en tout cas pour aujourd'hui par coefficient 81, et c'est plutôt pas trop mal quand même, la mer s'est bien retirée, c'est chouette. On s'arrête là juste pour parler de ces algues là, qui sont les grandes algues brunes, les plus grandes qu'on puisse avoir, en tout cas en France et en Europe. On a évoqué l'exemple de Macrocystis, qui peut atteindre 60 mètres de long. Mais on n'est pas du tout par ici, hein. C'est du côté de la Californie notamment. Par ici en Bretagne, les plus grandes algues brunes peuvent mesurer jusqu'à 4 ou 5 mètres, ce qui est déjà fort respectable. Et parmi elles, on a celle-ci. Donc là, comme je disais, on ne peut pas considérer qu'elle soit bien accrochée à un rocher bien stable pour se permettre de la récolter pour la consommation humaine. D'accord ? Donc juste, on l'observe, on en parle. Ça permet de voir les différentes parties de l'algue. Vous allez voir, c'est assez simple. On a un crampon qui sert uniquement, comme son nom l'indique, à se cramponner, à s'accrocher, c'est tout. C'est pas un organe qui va servir à l'algue à se nourrir, au contraire des racines chez le végétal terrestre. Ensuite, on a le stipe, cette sorte de tige là. On appelle ça un stipe, S-T-I-P-E. Et puis là, tout le reste, l'essentiel de l'algue, c'est ce qu'on appelle la lame ou la fronde. On parle parfois de fronde, comme chez les fougères. Là, on remarque qu'on a un crampon solide, vraiment très très costaud. Là, pour décrocher, pour arracher une algue comme ça, il faut se lever de bonne heure. Un stipe qui est lisse, arrondi, et puis de grandes lames brunes, la laminaire digitée, on l'appelle également. Digitée comme des doigts. Vous imaginez les longs doigts de mer comme ça. Le kombu breton, ça fait partie de ces grandes laminaires qui sont récoltées massivement pour les alginates. Alors les alginates Kesako, sont des sucres complexes. On appelle ça des polysaccharides, les alginates. Qui vont récoltées, collectées dans ces algues qui sont elles-mêmes cueillies, si on peut dire ça, ou plutôt arrachées par les bateaux goémoniers. Vous savez, qui ont des je sais pas si vous voyez, des grands bras articulés comme ça, qui vont pivoter, tourner sur eux-mêmes pour arracher les algues du fond de la mer, les emmener à l'usine et en extraire donc ces précieux alginates qui vont servir dans tout un tas d'usages et vraiment dans notre vie de tous les jours. Hein. Des algues, on en parlait un petit peu en introduction, tout le monde en a déjà consommé sans le savoir, hein. Ça c'est certain. Dans les yaourts, les crèmes dessert, les glaces, les sauces diverses et variées, même parfois dans la viande. En fait, les alginates sont des texturants, des hydrocolloïdes, et qui vont servir donc de texturants, d'épaississants, parfois de gélifiants, mais le gélifiant va plutôt être sur l'agar-agar. Hein, là, le gélifiant, c'est vraiment plus fort qu'un épaississant. Et ça va être l'agar-agar, l'agar-agar qui est extrait d'algues qu'on peut très bien trouver ici sur nos estrands bretons. Hein. Les alginates, ça va être les additifs alimentaires E401 à E405. Voilà. Les E quelque chose, c'est pas forcément mauvais, hein. Souvent c'est connoté négativement et parfois à raison, hein. Ça peut être des additifs cancérogènes ou autres, mais les additifs E401 à E407 sont des additifs à base d'algues. E401, E405, les alginates. E406, l'agar-agar. Donc, à base d'algues de genre Gelidium et Gracilaria. Et puis E407, eh ben, on le verra juste un peu plus loin. Ce sont les fameux carragénanes, là encore employés dans une multitude d'usages de notre vie de tous les jours. Autant dans l'agroalimentaire que en pharmaceutique, que en médecine, plein de choses.
On peut quasiment aller aussi loin que j'étais allé là. On y est au spaghetti de mer.
Allez.
Ça, je vais cuisiner ce soir.
C'est beau.
Ça, c'est trop beau.
Tu l'as cuisiné comment?
Alors c'est pas mal, même si
moi, je cuisine à la
on sort déjà un petit peu de la saison idéale quand même.
Ah ouais?
Faut bien reconnaître.
Ouais ouais.
Bah. C'est-à-dire que vraiment le cœur de la saison parfaite des spaghettis de mer, c'est quand même le mois d'avril. Là on est déjà presque mi-juin. On a des spaghettis qui sont un peu plus âgés, mais franchement ça reste très correct. C'est la limite. Moi je les cueille plus en été.
Ouais, c'est mangeable.
C'est carrément mangeable.
Là, tout de suite.
C'est très bien. C'est juste un poil moins tendre et un poil moins délicieux, mais ce sera très bon quand même. Pour nos algues comestibles, on va préférer des algues qui vont posséder leur couleur originelle. Ça va vouloir dire que bah, les pigments ne sont pas passés, sont restés sur l'algue. Et donc avec les pigments, on a les antioxydants, qui sont quand même bien utiles pour vieillir un peu moins vite. Pour nous les humains, c'est pas mal. Et puis tout simplement pour la saveur de l'algue, ça montre qu'elle est un peu plus jeune a priori, elle va être plus tendre, donc elle sera forcément un petit peu meilleure.
Là, j'en ai ramassé un morceau hier.
Ouais.
C'est quoi?
Ça c'est une Saccharissa polyskides a priori ce que t'as trouvé là. Avec un stipe immense.
C'est un véritable arbre, pardon. C'est incroyable.
C'est un ceinture. Quelqu'un peut m'en faire une ceinture. Je crois que ça fait mon tour de taille, à peu près.
Bah allez, Wen, tu déconcentres tout le monde, là.
C'est beau.
C'est beau aussi, ouais.
Alors, il déconcentre.
Bon, donc notre deuxième algue la plus consommée au monde, quand même.
Ah oui, pardon.
Alors, cette algue, il faut observer un petit peu comment elle est fichue. Alors déjà, on est dans les algues rouges, on n'est plus dans les algues brunes. Alors, c'est pas si évident les grandes classifications comme ça des algues. Parce que, bon, côté algues vertes, ça va, c'est facile. Les algues vertes, elles apparaissent vertes. Globalement, c'est pas trop compliqué. Mais entre les rouges et les brunes, franchement, c'est pas si évident. Il faut savoir qu'il y a une immense majorité en nombre d'espèces, très grande majorité d'algues rouges. Ce sont les algues dominantes, hein, vraiment. Mais pas forcément en quantité, en biomasse. Parce que quand vous regardez autour de vous, là, Ce qui domine, c'est vraiment de l'algue brune. Mais c'est majoritairement une seule et même espèce. Alors que les algues rouges, on va plus les trouver dans les détails. Et là, on va avoir une multitude de petites espèces. Voilà. Et donc, celle-ci, pour en revenir à là, regardez surtout ces terminaisons. Ça fait comme des petits doigts.
Ah ouais, petite main.
Comme une petite main. Mmh. Et bah, figurez-vous que ça se trouve dans l'étymologie du nom de l'algue. Son nom scientifique, c'est Palmaria palmata. Comme une main palmée. Vous voyez ? Et son nom commun, bien connu, c'est la dulce.
Ah, ok.
C'est la fameuse dulce.
Ah bah oui. Ok.
Alors qu'il a est bien décoloré. Hein. Vous voyez qu'elle est plus du tout, elle a plus ce rouge assez foncé, puissant qu'elle a à l'origine. Et que déjà là, c'est pas la même couleur à la base. Hein. On avait cuisiné un tiramisu à la dulce, figurez-vous.
Oh.
Et franchement, c'était bon. Quoi. C'était un peu surprenant, mais c'était vraiment bon.
On avait vraiment le goût quand même. C'était pas écrasé, justement.
On avait un petit peu le goût et la texture qui était vraiment intéressante aussi. D'accord. De la dulce. Ouais. Ouais, ouais. Alors, vous pouvez la goûter là telle qu'elle. Hein. Pourquoi pas. Là, elle est accrochée. Alors oui, là, elle est accrochée à une algue qui, elle-même, est accrochée à son rocher.
C'est
ok.
Ah,
si,
bon.
Techniquement, c'est d'accord. Bon. Les algues épiphytes, parce que c'est de l'épiphytisme, hein, du coup, une relation neutre, on va dire, entre une algue et son support végétal, son support algal aussi, c'est ok, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Tant qu'à la base, on voit bien que c'est bon, là, on est sur un rocher bien fixe, tout va bien. La dulce, on va pouvoir en cueillir un petit peu. Hein. C'est l'une des trois algues principales des paillettes d'algues qu'on va trouver en magasin bio, justement.
Hein.
Notre mélange, qu'on appelle parfois mélange du cueilleur, salade du cueilleur, salade du pêcheur, il y a différents noms, c'est des noms commerciaux, hein, c'est tout. Mais ce mélange-là, il est composé de trois espèces, la dulce, la nori et la laitue de mer, justement. Voilà.
Ouais,
et on parlera de pas mal de ces algues.